En France, cet événement a totalement été ignoré de tous les Français. Pour les jeunes, 68, c'était le quartier latin, point. Personne ne sait ce qui s'est passé à Sochaux.
À Sochaux, en 68, le 11 juin, c'est 2 morts par balle et 162 blessés. Voilà, c'est ça, Sochaux, c'était ça ce jour-là. Pour plein de raisons, hein, c'est pas facile, hein, c'est... En expliquant brièvement, Peugeot voulait tout faire à tout prix que les chaînes reprennent et les CRS ont envahi l'usine. Et quand les CRS sont dans l'usine, même les non-grévistes reviennent parce que ça, c'est des choses, c'est une pratique qui se faisait pas. Je veux dire, il y a encore une tradition très forte. Et donc c'est quand même très fort hein, le nombre de blessés et de. À partir de là, quand on arrivait jeune travailleur en 69 ou en 68, on vivait quand même avec ce souvenir qui était présent, parce que les anciens étaient, rappelés, hein, sur les chaînes, c'était quelque chose. Par exemple, les dernières images de grandes manifestations qu'on voit à Sochaux, je crois que c'est le deuxième anniversaire de la mort de Bello et Blanchet. Hein, c'était 15 000 personnes dehors, ça veut dire que l'usine s'arrêtait complètement à l'heure de la commémoration de l'incident. Encore maintenant, 30 ans après, on reste encore à peu près 70-80 à les poser une gerbe. Il y a quand même un square à Montbéliard avec une pierre tombale Bello Blanchet. C'est quelque chose de vraiment important. À l'époque, c'était Bouloche qui avait arrêté les combats entre les CRS et les ouvriers. Je veux dire, sinon, je crois que... Il y a encore des traces de grenades offensives jusqu'à Châtenois-les-Forges. Donc, de Montbéliard à Châtenois, les CRS en partant ont laissé des grenades partout. C'était quelque chose d'impressionnant quand on est gamin, quoi. Par contre, par rapport à Week-end à Sochaux, alors, bien sûr, il y a des acteurs professionnels. Donc, tous ceux qui font les sketchs sur les procédures d'embauche, etc., ça, c'est le théâtre des habitants, voilà. Le théâtre des habitants qui était payé par, rémunéré par le comité d'entreprise. Donc c'était un choix culturel de la part de Paul Seb, mais aussi la volonté du syndicat de Sochaux à l'époque, vraiment d'impulser un truc de création à l'intérieur de l'usine même. De procès en procès, Peugeot a eu leur peau quand même, hein, un par un. Ils ont fini à vendre des pâtes, du sucre, je crois, dans les pubs de TF1, là, d'un pour un. Par rapport aux autres... Les trois quarts des copains sont partis souvent il y avait l'armée à l'époque, on faisait encore le service militaire. Donc moi je me rappelle avoir fait Week-end à Sochaux avant de partir à l'armée, et en rentrant de l'armée il y avait pratiquement plus de copains. Je veux dire, l'armée était quelque chose aussi, il y avait un passage à l'usine, et puis après, bon, ben, ils disparaissaient, on ne voyait plus personne. Il y a aussi ce mouvement de jeunes a lâché, parce qu'en 1974, il y a quand même eu la crise économique qui a frappé, surtout dans l'industrie automobile, donc il n'y a plus eu d'embauche de jeunes. Donc, hein, maintenant, quand je le revois avec 25 années de recul, ce que je vois par rapport aux intérims qui arrivent à l'usine, ils sont tout à fait dans la même situation que nous où on était par rapport aux conditions de logement, par rapport aux conditions de salaire. À l'heure actuelle, un intérim chez Peugeot est embauché à 6 000 ou à 7 000 balles, mais pas de salaire, il donne 2 400 balles par mois, quoi. Pour un appartement qu'il va partager avec trois de ses copains. Hein. C'est énorme, je veux dire, il y a un racket organisé... Bon, ils connaissent pas encore les magasins Peugeot. Ravi, comme voilà, les grandes surfaces étaient montrées, ça venait de l'historique ravitaillement Peugeot. C'était ça, c'était les grandes surfaces. Quand Calvé est arrivé, il a dilapidé un peu tout cet aspect. Je crois qu'il a eu quand même raison, parce que ça faisait vraiment épouvantablement germinal. Là. C'était vraiment triste. Hein. Mais c'est un peu ça, ça veut dire. Non, je pense que c'est la réalité de l'usine à l'époque est bien montrée. Elle n'est pas assez montrée, sûrement par rapport aux conditions de travail même. Des jeunes, mais à l'époque on pouvait, il y a eu un plan qui a été coupé dans ce montage là parce qu'il y a une copie raccourcie ça. Sinon on avait réussi deux fois à faire rentrer une caméra, mais c'est trop compliqué, la vidéo n'existait pas, les caméras de cesse c'était des trucs longs comme ça, fallait se planquer, on l'a fait deux fois, mais c'est très compliqué quoi. C'était pas... Pour revenir à 68, il n'existe pas de documents filmés parce que l'erreur après 68 ça a été de mettre tous les films de Super 8, de 8 mm et même de photos à développer chez les photographes en France. Et donc, là, il y a eu censure, ils ne les ont jamais rendus. Le seul document qui existe, c'est parce qu'il a été développé en Suisse. Voilà, c'est pour ça qu'il existe, mais autrement, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Voilà.
Question ?
C'est une autre forme, encore que, par exemple, les foyers, pendant très longtemps, les grands ensembles avaient des logements inoccupés. Et donc là, c'est la recherche au logement. Donc dans un appartement, par Manef 3, on met Sigus, on met Simec. Hein. Et on les fait payer. Non, c'est carrément dans leur boîte intérim, leur donne une adresse et c'est celle-ci, quoi. Donc la course à l'heure actuelle, pour payer moins, tant que c'était les mois d'été, on voyait les terrains de camping fleurir. Le pays de Montbéliard, c'est très touristique, on voyait plein de campeurs. Là. C'est inimaginable de revoir ça maintenant. Et maintenant, il y a la préoccupation, c'est que donc, la communauté est obligée de rebâtir en urgence les logements sociaux. Pour tout ça, parce qu'en fait, c'est vrai que ça devient compliqué. Mais moi, ça me rappelle tout à fait les conditions qu'on avait quand on est arrivé, où il n'y avait pas le droit de faire à bouffer dans les pioles, où il n'y avait pas le droit de recevoir des... Vous savez, on parle beaucoup que la grève de Nanterre, 68, Nanterre, etc., c'est parce que les étudiants n'avaient pas le droit de recevoir leurs copines, etc. Mais dans les foyers de jeunes travailleurs, moi je me rappelle en 68-69, on n'a jamais eu le droit de faire monter un membre de notre famille, ni notre propre copine, dans notre chambre. Je veux dire, c'était pas... quand on parle des étudiants, on en parle d'une façon, quand on parle des ouvriers, on en parle pratiquement plus, d'ailleurs. Je crois que ce qui s'est passé aussi à partir de 1974, c'est que la bourgeoisie a tellement eu peur d'un moment donné de ce classe ouvrière qu'elle l'a nié complètement. C'est-à-dire, on ne parle plus des ouvriers. À l'heure actuelle, en France, j'ai un copain qui a posé la question dans une fac de sociaux en disant « Bon, combien y a-t-il d'ouvriers en France ?» C'est des étudiants et des étudiantes qui sont en deuxième année de sociologie. Et ils répondent « 100 000, 200 000, 500 000, on ne sait pas. » Ben non, on ne sait plus, personne ne sait. On a tellement pas parlé du mouvement ouvrier qu'il a fini par s'éteindre presque. Et tout d'un coup, il y a comme ça une petite grève. Alors quelqu'un qui veut faire sauter sa boîte parce qu'il veut être viré, tout d'un coup, ah, tiens, ça existe encore, il y en a encore quelques-uns. Moi, je me rappelle à Sochaux, par exemple, de Week-end à Sochaux, ou avec Le Son des Autres, puisque c'est le dernier film qui a été fait en 1974. Après, on n'a pratiquement plus entendu parler de rien. Jusqu'en 89, où il y a eu une grève quand même de 7 semaines. Brutalement, les journalistes se sont aperçus qu'il y a à nouveau, il y a encore des usines, c'est bizarre, on croyait que les bagnoles étaient faites ailleurs. C'est vrai qu'on a tous entendu un discours, la robotique va remplacer, il n'y a plus de travail pénible, etc. C'est faux. Le travail en chaîne d'un gamin à l'heure actuelle de 18 ans, c'est le même que j'ai connu, moi, quand j'avais 18 ans. Il n'y a rien eu de changé. À la limite, la robotique, ça se tient entre deux robots, un qui va monter le pare-brise de voiture et l'autre qui va faire le plein d'essence à la fin de la chaîne. Mais ça s'arrête là. Mais tout le reste, le montage, le vissage, etc., il n'y a rien de changé. C'est toujours pareil. Donc il faut de la main-d'œuvre jeune, à bon marché, qui n'est pas beaucoup, qui n'a pas beaucoup été à l'école, parce que c'est quand même plus facile, et tout ça, on recommence une espèce de cycle des années 70, en espérant que ça se termine mieux pour eux que pour nous, puisque en fait, c'est quand même pas trop bien terminé, on vieillit mal dans des usines. Voilà. L'école d'apprentissage Peugeot a fermé en 76. En 76, elle a fermé avec différentes conventions qui ont soi-disant... C'était l'école Peugeot. C'était marrant d'ailleurs cette école Peugeot qui était capable de fabriquer autant de militants syndicalistes qu'autant de contremaîtres et de chefs d'atelier, je veux dire. C'était 50-50. Hein. Nous, on puisait nos cadres dans les apprentis Peugeot et la hiérarchie de l'usine était pratiquement composée aussi d'apprentis Peugeot. Donc il y avait une espèce de connivence aussi. Hein. Ça permettait aussi des relations sociales différentes puisque ils s'étaient tous connus sur les bancs d'école. C'est vrai que quand on venait de l'extérieur, nous, jeunes travailleurs, qu'on n'avait pas cet esprit, ça détonnait un peu dans le paysage puisqu'on n'avait pas d'intérêt direct dedans. Donc cette école, elle a fermé, elle a été contrebalancée par les CFA. Non mais voilà, non mais... Peugeot est toujours très vigilant par rapport à l'engagement sur les écoles professionnelles. Il a toujours continué à placer ses cadres dans le conseil d'administration, et il est très vigilant par rapport aux métiers de l'automobile qui sont appris. C'est-à-dire qu'on ne fabrique plus, par exemple, de tôliers, de métiers, des bosseleurs. Par contre, on fait des gens pour la petite retouche, hein, parce que ça va beaucoup plus vite. C'est ce genre de modulation. Mais vraiment, l'école d'apprentissage Peugeot, non, n'existe plus.
Oui,
oui. Je crois que l'aristocratie ouvrière était là, oui.
Ah, oui.
À un moment donné, c'était ça, tout à fait. Ah non, mais... Hein, il augmente là, mais de 45 000 dans les années 70, on est passé à 22 000. Et là, on doit tourner avec 2 000 intérims, à peu près 3 000 intérims pour la fin d'année, 3 000 pour décembre. Donc ça augmente considérablement. On voit beaucoup de jeunes filles aussi arriver au travail, mais les jeunes filles embauchées pour intérim, la condition, c'est de pouvoir travailler de nuit. Voilà, la réglementation qui est appliquée au maxi. Mais mais c'est ça ou rien. Hein, je veux dire, faut aussi le savoir. Je veux dire, c'est pas simple de dire non. Hein, je veux dire, on peut toujours dire c'est dégueulasse, mais une fois qu'on l'a dit deux fois, faut bouffer, quoi. C'est pas.
Mais le monde ouvrier, c'est que le jour, il était fier quand même de sa boutique. Je me souviens de l'époque. Pour moi, j'étais instituteur débutant. Et bon, avec un petit salaire, parce que les salaires de l'époque n'étaient pas élevés dans les années 1850. Et les ouvriers, le jour, et tout le monde savait qu'à la fin du mois, sur le billet de gare, il était déversé de quantités extraordinaires d'argent qui faisait tourner le.
Non, on peut citer deux chiffres. Par exemple, en 68, le SMIG était à 600 balles. Hein, je veux dire, il était augmenté à 600 balles. Un salaire de quelqu'un qui travaillait en chaîne chez Peugeot, je veux dire, était à 950 balles. Voilà, c'était à peu près la fourchette. À l'heure actuelle, le SMIG est à 6700. Hein. 7000 bruts, le salaire Peugeot d'embauche est à 7003. Hein, je veux dire, c'est voilà, on a bien rétréci les choses. Ceci étant dit, il existe encore un noyau dur, je veux dire, qu'ils essayent de reformer, que les directions d'usines et les DRH essayent de reformer par rapport à l'esprit maison et corporatiste, je veux dire, avec le football, l'échec en Formule 1, les rallyes, je veux dire, ça forme un tout quand même, hein. Puis la bande à Jésus. La bande à Jésus, maintenant, dans le film que vous avez vu, Théo Robichet prend la parole comme étant un membre du syndicat CFT, donc la CFT à l'époque de sinistre mémoire, hein, parce que bon, il y a les nervis, quoi, aussi, on connaît Saint-Étienne, on connaît aussi le Didierer, par exemple, celui qui joue avec sa malle, là, ça a été deux fractures de la mâchoire, une fracture de 15 points de suture sur le crâne, le bras cassé, etc. Il est parti en Bretagne, il a moqué fou, je veux dire, ça aussi, c'est une réalité, ils sont tombés dessus une nuit, et ils l'ont laissé pour mort sur le terrain, c'est aussi une façon de la CFT, il faut en parler, des fameux colonels et généraux qui gouvernaient ces usines. Et donc, la CFT n'étant plus un modèle moralement supportable, même pour Foltz, a décidé de s'aborder. Donc, il a s'abordé son syndicat maison. Ceci étant dit, il a mis ses billes à la CFTC. Donc, le surnom de la CFTC maintenant, c'est la bande à Jésus. Mais c'est quand même, c'est le syndicat maison. Il n'y a que le C qui change, quoi. Vous savez, quand on arrive à vendre des cartes syndicales à des travailleurs musulmans à l'emboutissage en enlevant C de la carte, ça commence à poser des problèmes sérieux par rapport à une éthique. Enfin bon, il n'y a plus rien de syndical dans ce terme. Quoi. Enfin, le surnom, c'est la bande à Jésus, parce que c'est vrai, quoi, c'est une bande, quand même, c'est une bande, quoi. Voilà. Mais c'est un peu ça qui joue tout le temps dans les rapports de force, hein. C'est comment il va reposer, où il va mettre ses œufs, quoi, bon.
Et sur le plan social, bon, les
entreprises, dans les rapports de force dans le mouvement ouvrier, les coalitions FO, CFTC, CGC et pour une partie CFDT, donc dans les années 85, 84, 85, ont fait basculer la majorité. C'est-à-dire que les CE qui étaient gérés CGT, CFDT pendant depuis 66, qu'on a repris les œuvres sociales, ont basculé dans les mains donc des syndicats. Comment qu'on pourrait les appeler, je sais plus, je sais pas, j'ai pas vraiment de nom. Donc ils ont tout vendu le matériel des camps, ils ont vendu les terrains, ils ont tout redonné à Peugeot complètement, ils ont tout donné. Donc en tant que CE, plus personne ne gère la vie des gosses d'ouvriers ou même la vie des familles ouvrières. Hein, il n'y a plus rien. Donc là, c'est à la limite, vous allez en terrain de camping, vous revenez, on vous donne 100 balles par jour, passez sur un terrain de camping habilité. Voilà, du moins qu'il est dans le catalogue. Il y a des choses qui se font beaucoup plus mal que ça, par exemple. Pendant des années, on avait essayé de développer qu'un gosse d'ouvrier, quand il allait en fac, c'était très cher pour une famille ouvrière. On donnait des bourses qui étaient considérables, je veux dire, mais importantes, une aide vraiment importante. Un gosse d'ouvrier pouvait aller en fac avec les bourses du CE. C'était 6 000 balles pour une année, alors que les bourses d'État étaient de 8 000 balles à l'époque. C'était quelque chose de conséquent. Alors, il n'y a plus rien. Bah, ça a complètement disparu, quoi. Vous vous démerdez, quoi. Vous faites avec. Voilà. Par contre, les cadres vont vacants. Le directeur de l'emboutissage, l'année dernière, est parti 3 fois en vacances. Il a été aidé 3 fois pour partir en vacances. Voilà. Il faut savoir, il était fatigué.
Et plus aucune activité culturelle.
Il reste... La cité a disparu. Il reste quand même l'association de la cité, toujours sous loi 1901, qu'on a gardée. On a encore 5 adhérents, pour éviter que ça coule. Parce qu'il y a quand même 45 000 volumes... dans une bibliothèque qui sont stockées, qui n'ont pas le droit, parce qu'ils voulaient les répartir les livres dans les différentes bibliothèques municipales. Et donc, en restant adhérent à la cité, on a permis que ce ne soit pas dispatché de tous les côtés. On ne sait pas ce que ça deviendra, parce que c'est intenable, c'est une situation intenable. On ne peut pas laisser les 45 000 bouquins dormir jusqu'à la fin. Par contre, il reste une discothèque qui est plutôt commerciale maintenant que ce qu'elle était. Sinon, il n'y a plus rien. Je veux dire, le Saint, c'est eux qui vend bientôt qui vend des pommes de terre et des bouteilles de vin, quoi. On a connu ça, quoi. C'est la grande coopérative, quoi. C'est plus un CE en tant que tel, un CE comme on avait pu l'espérer de former des cadres syndicaux ou des cadres politiques pour changer une société, ou tout au moins pour devenir moins con. Mais là, non. C'est carrément, on repose le problème sec.
Oui, là-bas, les amis anciens...
Ah oui.
Je sens sa poésie, à la fois dans les oubliés, mais vraiment
lucide
et d'une façon,
c'est vrai,
bravo.
Non, c'est pas attirant. L'écriture, bon, moi, c'est vrai qu'il ne faut pas se... Je crois que quand on a eu Paul Seb à Clermoulin à un moment donné, qui était capable de réunir 30 jeunes tous les jours, qui pendant une durée d'un an et demi, je veux dire, inévitablement, le scénario, on l'a écrit parce qu'on l'a raconté, je veux dire, on l'avait vécu, donc on l'a raconté, mais en même temps, la mise en forme et la mise sur le papier étaient plutôt de Paul Seb que d'une autre. Dire, ce qui a aussi créé davantage de problèmes après dans les autres films, puisqu'on ne voulait plus de ça aussi. C'est ce qui explique aussi à un moment donné que le groupe aussi s'est séparé. Mais en même temps, à l'époque là, c'était essentiel. Premièrement, parce que jeunes comme on était dans le mouvement syndical, c'est pas facile non plus à accepter. Je veux dire que des jeunes militants aient une expression autre. Hein, que celle du tract, etc. C'est pas facile, je veux dire. On n'avait pas 40 ans, on avait 18, 19 ans. Hein. Il ne faut pas oublier que la situation politique, il y avait la peur du gauchiste en tant que tel. Hein. Moi, je me rappelle de, t'as connu, hein, Pintussi, etc. Je veux dire, c'est des gars que j'aime bien, hein, que j'aimais beaucoup, mais qui n'étaient pas faciles à vivre quand on avait 20 ans. Hein, je veux dire, c'est quand même pas. C'était pas la rigolade non plus au syndicat. Hein. Moi, la première fois que Pintussi m'a foutu dehors, parce que j'arrivais avec des cheveux jusque-là, hein, quand même. Hein. C'était au syndicat, c'est quand même pas simple, hein. c'est des choses qu'on n'oublie pas, et pourtant je l'aimais beaucoup. Mais donc, notre refuge, c'est vrai que, bénéficiant d'un gars comme Paul Seb, je veux dire, c'était quand même plus facile, il arrivait à faire la médiation entre les deux, il arrivait à faire le compositeur de toutes ces différences. Quoi. Bon, enfin, c'est quand même son empreinte très forte, oui. Sauf que quand même, on revendique quand même tous ces sketchs, quoi. Complètement. La mise en forme en écriture, oui. Mais le reste, non, l'idée, non. C'est nous.
Micheline.
Et la caméra vide de la caméra.
C'était les professionnels. Nous, c'est-à-dire, ça s'est jamais posé dans Week-end à Sochaux. Parce que il y avait trop de gens qui y participaient, qu'on se connaissait pas suffisamment. Je veux dire, c'était pas, on se connaissait de 3 mois dans les hôtels. On se connaissait pas autrement dans une ville comme Besançon, dans un quartier populaire. On habitait à droite et à gauche, et on venait, moi de Bretagne, l'hiver de Bretagne, l'autre du Nord, etc. Je veux dire, donc c'était complètement, on se connaissait pas, quoi. Je veux dire. Et bon, Bruno aussi, je crois, à un moment donné, avait envie aussi de s'affirmer. Mais je dis ça avec le recul. Encore que je n'ai pas eu l'impression qu'il est poussé dans un sens, quoi. Mais il a besoin, lui, de filmer, de faire quelque chose. D'ailleurs, on voit bien que c'est un film important, hein, puisque maintenant, il ressort, maintenant. Après l'avoir oublié, il ressort.
Justement, je voulais vous savoir, dans la diffusion du film, est-ce qu'il a été diffusé, est-ce qu'il a été vu par les jeunes autres que le milieu militant autour du film, et puis comment il a été reçu?
Oh, chez les jeunes, il a circulé pendant 10 ans dans le pays de Montbéliard et sûrement sur Besançon avec Paul après sa sortie. Ça fait 10 ans qu'il ne circule plus dans le pays de Montbéliard. On est en train de discuter avec Viviane en disant qu'il faudrait sûrement le rediffuser maintenant. Maintenant, par contre, il ressort, je veux dire, dans un mois, on passe à Lyon avec ce film, donc pour un débat aussi. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de s'opérer. Mais il y a une espèce de, comment dire, de... On commence à reparler de la classe ouvrière. Donc ils ont besoin, à un moment donné, d'archives un peu différentes.
Est-ce que vous voulez, à l'époque, est-ce qu'il avait été...
Il a surtout été très très combattu. Très combattu. Comment dire? Il a été très demandé par les unions départementales, par exemple CGT et CFDT à l'époque, à peu près dans toutes les provinces. On était à Saint-Nazaire, on était un peu partout, Rennes, etc. On l'a projeté un peu partout. Par contre, dans la région du pays de Montbéliard, il ne fallait pas le passer. C'est, alors là, pas question de ça. Non, il y a quand même des choses qu'on ne touche pas. Non, mais ça oui. Donc, ben oui, c'est normal, on ne touche pas à la main qui nous nourrit quand même, faut pas lui faire trop de mal. Maintenant, bon, je sais pas, je pense que ça pourrait facilement s'arranger, je veux dire, il y a une évolution quand même, mais bon, on a perdu 25 ans. Pourtant, on avait essayé de faire un peu tout. Il n'y a pas longtemps, quand même, il était repassé au Festival International à Rotterdam, il y a 3 ans. Donc, il y a eu des choses de fait, mais bon, en même temps, Planète, Bruno Mel n'a pas voulu le vendre à Planète. Hein, il y en a eu 2 ou 3 qui ont été vendus. Planète aurait été, elle aurait bien voulu, mais Bruno n'a pas voulu le laisser aller. Pour des raisons qui sont les siennes, je veux dire, c'est pas... Alors après, dans la diffusion, c'était plutôt des circuits militants, hein, pas tellement les nôtres, hein, bon... Antenne 2, à l'arrivée de la gauche, voulait l'acheter. Antenne 2, après, s'est ravisé. Alors bon, vous savez, la gauche, c'est un peu bizarre, hein, ça va, ça vient, hein.
C'est pas par rapport à des jeunes qui étaient... par rapport à la jeune, c'est pas...
Disons que le film, il a été présenté au Festival de Cannes.
Ouais.
Hein. Mmh. Il a été plus ou moins bien accueilli, d'ailleurs.
Oui, dans le festival, oui.
Mmh. Et après, il a été programmé, me disait Paul Seb, il a été programmé par les films de Mulan, et le producteur ne voulait pas le diffuser. Il aurait dû être diffusé, il a été programmé une fois au Quartier Latin, dans une salle du Quartier Latin, et c'est tout. Et puis après, le producteur a dit que je le garde en stock pour jusqu'à la... Peut-être que je le vendrai dans 20 ans. C'est un capital pour les films du Milan. Ce film, c'était de l'argent qu'il pouvait revendre 20 ans après. Quand il y aurait une demande précise, historique, ou je ne sais pas. Et puis, fort heureusement pour nous, le Milan a fait faillite. Hein, donc il y avait en circulation militante que les copies de Bruno Muel, l'auteur, et puis celles de CE Peugeot, et puis c'est tout. Donc, comme quand les films de Mulan ont fait faillite, Bruno Muel a racheté son film et a racheté les droits de son film. Donc, il est maintenant propriétaire des droits. Mais au départ, c'était le producteur qui l'avait financé. C'est tout, quoi. Donc, il y a des gens qui étaient capables, et qui sont encore capables, de mettre des images, des histoires en boîte pour les revendre plus tard. Il faut quand même savoir que ce cinéma est tributaire de ces marchands, hein, de pellicules, hein, des producteurs, c'est les producteurs, il y en a des bons, il y en a des mauvais, il y en a qui spéculent, hein, c'est comme, c'est une action, hein, c'est, Et ça peut se revendre, hein, éventuellement. Et donc, maintenant, donc, Bruno Muel a parfaitement raison de dire pourquoi je n'ai pas besoin de vendre le film pour vivre. Donc, j'ai dit, ben, je ne spécule pas dessus, j'attends qu'il y ait vraiment une demande et un besoin de ce film. Hein, donc, pour le faire profiter différemment. Hein, c'est un film qui vivra sans doute, qui plaît, je crois, qui a un ton historique intéressant. Moi, je trouve que c'est un film qu'il faut défendre. Mais le défendre pour qui, comment, ce n'est sans doute pas pour le brader à la télévision, et puis après, ils auront les droits, et puis on n'en parlera plus. Hein.
Il y a quand même une chose qui est importante. Alors, je ne sais pas si c'était pour vous, aussi gros de Pevenkin de Besançon, la rencontre militant ouvrier et militant cinéaste à un moment donné a déclenché quand même une prise de conscience énorme, enfin pour moi, militant ouvrier. Je veux dire, le contact avec ces gens n'a pas pu me laisser uniquement devenir que militant dans l'usine. Je veux dire, à un moment donné, il y a eu un besoin qui a été créé avec ces gens-là d'aller plus loin. C'est pour ça que dans le pays de Montbéliard, il y a un bouquin qui est ressorti, Le retour sur la condition ouvrière, là, de Michel Pialoux et de Stéphane Beau, avec qui j'ai travaillé depuis 15 ans, parce que ça forme un tout. C'est Paul Seb, c'est Bruno Muel, c'est Pialoux, c'est Stéphane Beau, et parce que ça forme un ensemble. Mais ça, je crois que c'est la découverte de ces gens à un moment donné, capital de la vie, à un moment charnière de la vie, qui est capable de créer ça, quoi. Bon, voilà, si je voulais rajouter ça. Ça me semble important que ces gens, je veux dire, pour moi, ça a fonctionné, ça aurait dû fonctionner avec beaucoup plus de gens si à un moment donné, on travaillait un peu autrement, la façon de prendre son temps, de réfléchir et d'analyser les choses. Voilà.
Qui n'a pas foncièrement changé, tu l'as dit tout à l'heure. Et donc, il est toujours d'actualité, c'est en ça que c'est l'intérêt d'avoir un film vieux d'une trentaine d'années. On se dit, bon, ben, les choses ne changent pas. Le système d'exploitation, la situation du salariat ne change fondamentalement pas. Par contre, ce qui a beaucoup changé, c'est la façon dont on parle, les perspectives qu'on pose. Il y a des mots, là, franchement, il n'y a pas beaucoup d'organisations politiques syndicales qui oseraient les reprendre à l'heure actuelle. Ils ne sont pas laissés complètement à l'abandon, on ne les dit plus. Et là, il y a peut-être un petit problème, et je crois que ça mérite justement de revenir un petit peu en arrière sur les choses, au fil du débat politique, au fil des concessions, au fil des difficultés, au fil des défaites, enfin, toutes les choses qu'on a un petit peu laissées reculer au niveau de l'expression du débat idéologique et des perspectives. C'est pas simple, mais moi je me suis dit, tiens, c'est quand même assez étonnant, c'est un discours qui est hérétique.
Non mais je crois que tu as raison, hein, moi je... Tant qu'on a fait le constat, pas grand chose à dire de plus, hein, je crois que c'est bon.
Tu avais demandé la parole.
Je voulais savoir simplement, il y a répondu un peu, l'expérience
à peu près, je veux dire, c'est toujours ambigu. Hein, quand on continue à travailler dans la boîte, on est pris entre deux réalités. Hein, une réalité qu'on aimerait bien la fuir. Hein, je veux dire, il y a le... Comment expliquer ? C'est comme en amour, quoi, je veux dire. Il y a la haine et l'amour, hein, entre les deux. Hein. La haine de l'usine, et en même temps, on sait que l'usine, quand même, quelque part, on doit être capable de la saisir différemment. C'est une espèce d'âme, une espèce de vie sociale importante. C'est... Comment parler en tant qu'homme, en tant qu'humain, par rapport à une usine ? Quand on voit les drames que ça engendre, mais par rapport aux rigolades aussi qu'il peut y avoir. Je veux dire, il y a les deux choses, et c'est tout ça qui forme un tout, je veux dire. C'est pour ça que c'est toujours compliqué. Moi, je crois que la connaissance de Bruno, de Robichet, de Godard, etc., ont permis ça, de voir un peu les deux facettes et de continuer à travailler un peu sur les deux facettes. Et il est évident que je ne suis plus militant comme je pouvais être il y a 20 ans, mais en même temps, par rapport à ma connaissance des gens et par rapport aux connaissances du terrain, c'est une autre forme de militantisme, je crois qu'elle apporte beaucoup plus que celle de à un moment donné, d'aller engueuler un connard d'adjudant-chef en retraite qui est venu se resituer, quoi. Bon, enfin, il me semble, mais... Et ben voilà.